Puisqu'on parle de la colère du faucon, est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Donc, c'est votre dernier roman?
Non,
c'est Charles Méchant, c'est avec
un nouvel. Non. Vous avez raison. Jusqu'à présent, jusqu'à date, c'est mon dernier.
C'est mon dernier roman. C'est ça, mais c'est le dernier roman. Donc, sur la page couverture, est-ce que c'est vous?
Non.
Ah, okay.
Non. Ma mère ne m'aurait jamais habillé de cette façon-là. Mais c'est que j'ai un graphiste suisse. Hein.
Ok.
Et alors, c'est un petit costume de petit suisse. Très, très joli, tyrolien ou suisse. Alors, il a à peu près, je crois, dans les 60 000 photos. Et alors, il sait exactement où et quoi. Moi, je me demande, il vit à Berne. C'est un très vieil ami à moi et qui est brillant comme graphiste. Et il m'a montré ça, il dit, oh, ça pourrait être Falk, non? Est-ce que tu ne penses pas? Oui, j'ai dit oui. Lui ou un autre, il dit, je pense que ça pourrait passer pour le personnage parce qu'il est blond. Voilà, alors, attendez voir.
Mais ça se passe dans une région que vous avez connue Est-ce que c'était le fameux protectorat français?
C'est ma région.
Donc c'est le fameux protectorat français dont on parlait là.
C'est ça.
C'est dans le sud de l'Allemagne.
C'est dans le sud-ouest. C'est de l'autre côté de la Lorraine, qui sont nos meilleurs ennemis.
On dit la Sarre.
Oui, ouais. Comme la Sarre qui se trouve en
Abitibi.
Oui. Qu'est-ce que je vais vous.
Non,
je crois que je
la Sarre est un peu différent.
Je crois que.
Elle a aidé à la Sarre.
Il y a des choses qui. Je suis un. Ah oui. Alors, je vais vous
résumer un peu peut-être avant.
Oui, alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui
c'est un récit d'apprentissage, hein, on peut dire.
Oui,
ça.
Oui. Alors on le suit à peu près de l'âge de 3 ans jusqu'à ce qu'il va à Paris, jusqu'à à peu près 19 ans, hein. Et après ça, il y a un grand saut qui le montre quand il a à peu près 60 ans. Et il est psychiatre à Paris. Il est devenu psychiatre à Paris. Alors, malheureusement, c'est pas une... ou heureusement, ce n'est pas une auto-fiction.
Non, oui, heureusement.
Oui, heureusement. Ce livre-là est axé sur la problématique de l'enfant et du père, et d'un père qui a été à la guerre et qui est revenu comme étant un ancien soldat, un ancien nazi, qui a été battu. L'armée allemande a été battue et il était... comme il est parfaitement bilingue, allemand, français, il a été affecté au service de contre-espionnage allemand à Paris. Ça veut dire qu'il a vécu des choses qui ne sont pas tellement drôles, dont il ne parle jamais, mais qu'il a consigné dans un cahier. Et à la fin de leur relation, quand le fils, il a deux fils, dont l'un, dont l'aîné est son préféré, et il déteste son deuxième parce qu'il n'est pas sûr de sa paternité. Alors, ça crée... Alors, il ne lui ressemble pas du tout, c'est un petit blondin, alors... et il tombe beaucoup plus dans la famille de sa mère, c'est-à-dire de la mère de ce... garçon-là. Et comme ça s'est passé, comme la grossesse a eu lieu pendant la guerre, on ne sait jamais. Hein. Bon, alors, c'est la lutte entre le père et le fils. Et le père tente par tous les moyens de briser le fils. Et le fils résiste. Et le fils survit en résistant. Alors, le père est revenu presque tout de suite après la guerre, ici dans les livres, et le fils le reconnaît. Parce que le fils l'a déjà vu une nuit, à la fin de sa troisième année, quand il avait 3 ans, il se rappelle d'avoir vu cet homme-là. Il se rappelle des yeux et de la méchanceté dans les yeux, de la froideur. Ce sont de grands yeux gris. Et alors, ici, je vais vous lire un paragraphe qui va vous situer immédiatement dans la chose. L'enfant, après la guerre, il a eu une petite amie, il avait 4 ans, si je ne me trompe pas, 5 ans, et sa petite amie avait des choses que lui n'avait pas. Il y avait chez elle des choses à manger. Et alors, c'était un soir de novembre, naturellement, c'était extrêmement dangereux parce que, surtout pour un enfant, se trouver à l'extérieur de la maison. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de réverbère, il n'y avait rien. Et il y avait beaucoup de soldats de l'occupation qui rôdaient. Et on trouvait des enfants dont on avait coupé la gorge. Alors, il y a eu plusieurs douzaines de ces cas-là. Et naturellement, quand un enfant ne rentrait pas à la maison, c'était très, très mauvais signe. Et l'enfant s'est endormi chez sa copine. Et vers 10 heures du soir, en novembre, il fait noir, à 10 heures du soir, et il fait froid aussi, le père de la petite a dit au garçon, « Rentre chez toi et vite !» Parce qu'autrement, je pense que tes parents se font du souci. Et il rentre et son père est hors de lui. Il dit, d'où est-ce que tu sors, etc., etc. Et pour s'abréagir, le père le frappe très violemment. Et il le frappe avec une cravache. Alors, c'est une scène horrible que je vous épargne. Mais je vais vous lire un petit paragraphe après la punition. La mère et le frère sont en ville en train de chercher le petit faucon. Alors il est maintenant dans sa chambre. Dans la pièce, l'enfant tremble violemment. Il est seul et nu. Le cannibale, ça c'est le père. Hein. Le cannibale ne reviendra peut-être pas dans les prochaines minutes. S'il se mettait au lit, il pourrait se protéger avec les couvertures. Il enfile son pyjama, des chaussettes, se couche à temps, respire rapidement, la bouche ouverte, guettant les bruits dans le passage, attendant que la clé soit tournée de nouveau. Ses extrémités sont glacées. Il a faim. Des pommes de terre rissolées aux œufs, délicieuses, il en a vomi la plus grande partie. Il ne peut s'arrêter de trembler. Henning, ça c'est son frère, ne lui a jamais raconté qu'on pouvait encaisser une punition aussi féroce. En tout cas, elle a duré une éternité, sa peau n'est qu'une grande plaie. À bout d'haleine, il s'est dit que, dès leur première rencontre, il a su combien cet homme était méchant. Méchant, méchant, c'est un monstre. Non seulement faut-il s'en méfier, mais éviter de le croiser dans la maison ou au jardin. Alors vous pouvez imaginer ce que ça fait à un enfant quand il a peur, une peur bleue du père, et qu'il s'imagine les multiples façons comment tuer ce monstre-là. Alors, il le met en rondelles, il en fait des mixed pickles, hein, si vous voulez. Et il, mais ensuite, il le fait revenir à la vie pour le tuer de nouveau, sans arrêt. Vous voyez, et il vit avec cette hantise pendant 15 ans. Il rencontre le père, et dans une terrible dernière scène, il a failli tuer le père, effectivement. Mais le père meurt d'une autre façon, et il le sait beaucoup, beaucoup plus tard, d'une façon assez, assez spectaculaire, qui est effectivement vraie aussi. Hein, cet accident a vraiment existé. Mais ce livre-là, après 70 pages à peu près, vous allez dire « Non, je ne peux pas continuer. » Et d'un seul coup, ça c'est le truc de l'écrivain, forcément. L'écrivain sait très bien ce que ressent le lecteur, parce que l'écrivain se met aussi dans la peau du lecteur après la rédaction. Il va retrancher, il va retravailler le texte, etc. Et alors, d'un seul coup, le sauveur arrive, et c'est le grand-père. Et là, c'est une fiction totale. J'ai jamais connu. Je me suis inventé pour moi aussi, parce que il faut dire que je fais partie de cette génération qui a tellement souffert des pères. Moi, je ne suis pas le protagoniste ici, mais j'en ai vu autour de moi des choses immondes que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous ai raconté tout à l'heure que deux de mes camarades de classe se sont pendus parce qu'ils n'en pouvaient plus. Les pères étaient tous fêlés quelque part. Les professeurs, par exemple, de mon frère, ils étaient fous. Et j'ai changé d'école moi-même parce que, et ça c'est une chose que je raconte ici comme si c'était ce qui est arrivé, mais ce qui m'est arrivé, c'est qu'un lundi matin, la première heure, c'était un professeur de mathématiques qui était entré encore dans les vapeurs de l'alcool, etc., et qui voit que on avait quoi ? On avait 11 ans, et qui voit qu'il y avait plus de 50 élèves dans la salle, et alors qui voit que le premier avait mal fait le travail. Et alors, il lui donne une claque derrière la tête, ok, ça va, on était tous habitués. Mais le deuxième était un garçon qui avait eu un shrapnel dans la hanche et qui boitait. Et ce professeur-là détestait tout ce qui était invalide. Et alors, il a vu que l'autre avait fait les mêmes erreurs. Alors, il écumait d'un seul coup. Il dit, je vais te montrer, etc. Alors, il a pris la canne de ce garçon-là et il a frappé avec la canne. Et ensuite, on avait tous, parce qu'il avait mal expliqué la chose, on avait tous commis la même chose. Hein. Et il a frappé tout le monde pendant une heure. Et quand il est arrivé devant moi, il a sursauté. Parce que mon père était un personnage qui était assez important au gouvernement. Et alors, il a dit, toi aussi, tu vas y goûter. Et moi, naturellement, je ne suis pas né de la dernière pluie. Moi, j'ai déjà fait comme certains autres. J'avais mis du papier et puis des choses sur les fesses. Et puis, ça amadouait pas mal, et, hein, ça adoucissait pas mal la peine, et puis ça faisait ploum, 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 etc. Il y avait des livres, quelque chose là, ok. Et comme tout le monde portait des lederhosen, hein, c'est-à-dire les choses en cuir, là, hein, parce que c'était ultra résistant, on voyait pas qu'il y avait un livre ou qu'il y avait des cahiers. Hein. Alors il m'a attrapé, puis il m'a frappé aussi, il m'a donné ma dose. Hein. Alors cette brutalité constante de tous les jours, mon frère, et ça je l'ai pris de mon frère, ici dans ce livre-là, il vomissait tous les matins avant d'aller à l'école. Il avait tellement peur. C'était vous n'avez aucune idée de ce que c'était. C'était en 1950 et quelques, hein. D'une brutalité absolument inimaginable. Et les parents disaient aux enseignants, frappez-le parce que ça va lui apprendre et deuxièmement, ça va nous enlever du travail à la maison. Les parents frappaient comme c'était inimaginable. Hein. J'ai vu un jour un de mes camarades qui avait l'oreille détachée jusqu'ici. C'est simplement parce que son père avait... etc. Alors, c'est de la brutalité physique. Hein. Et alors, naturellement, on a peur. On a tout le temps peur. Alors que maintenant... Vous allez frapper un enfant en Allemagne et puis vous êtes devant le juge, exactement comme ici. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, nous, on était vraiment des toughs pour survivre et qui ne survivait pas, il se pendait ou il s'échappait de la maison. Je ne sais pas combien de fois mes camarades m'ont dit, moi je m'en vais. Moi, je peux plus supporter ça. Et ils sont partis. On les a rattrapés avec des chiens, etc. On les a retrouvés. Mais d'autres sont certains, que moi je n'ai pas connus, sont partis. On ne les a jamais retrouvés.